Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Caricaturée, moquée, voire traînée dans la boue, Marie-Antoinette n'inspire plus le respect à la veille de la Révolution française. Les estampes, les dessins et les pamphlets montrent une reine ayant perdu toute dignité et ayant sombré dans le déshonneur. Imprimées et distribuées, ces caricatures circulent à la fois dans les couloirs de Versailles et dans les rues malfamées de la capitale. L'obscénité et la trivialité des propos sont d'une violence rare. Le corps de la reine, dégradé, souillé, est devenu donc un objet de moquerie dans cette fin du XVIIIe siècle. Pendant ce temps, Louis XVI propose la figure d'un roi, abdiquant peu à peu, faible, devant notamment les parlementaires. La condamnation du corps de la reine accompagne la critique, à la fois de la part des nobles et des bourgeois, de l'autorité du roi Louis XVI. Roi néanmoins bien moins sujet aux caricatures grossières que son épouse, la reine Marie-Antoinette. Si le corps de Marie-Antoinette est autant dédaigné, c'est parce qu'on veut dire la décadence morale de la reine à travers la souillure de son corps, ou bien simplement, on se plaît dans une ambiance contestataire à bafouer l'inattaquable. Quel lien peut-on faire entre la bonne santé du pouvoir et donc la figuration du corps de la reine? Comment comprendre le pouvoir politique des femmes de l'Ancien Régime et leur rôle à travers les représentations littéraires artistiques de leur corps? Qu'est-ce que ces réflexions sur la santé et l'apparence des reines nous apprennent-elles sur la vision de la féminité sous l'Ancien Régime? Pour répondre à nos questions, nous recevons aujourd'hui Stanis Pérez, un historien qui vient de publier chez Perrin un ouvrage intitulé « Le corps de la reine », justement, qui fait écho à l'une de ses autres publications, « Le corps du roi », paru également aux éditions Perrin l'année dernière. Bonjour Stanis Pérez.
Bonjour.
Vous êtes historien, agrégé, spécialiste de l'Ancien Régime,
oui,
et entre autres de l'histoire des corps et des médecins. Alors avant de commencer à évoquer donc votre ouvrage sur le corps de la reine, pourriez-vous rappeler à nos auditeurs en quelques mots la thèse de votre premier ouvrage sur le corps du roi paru donc en 2018?
Je vois qu'on commence encore une fois par les hommes. Bon, écoutez, qu'est-ce que c'est que le corps du roi? Dans l'Ancien Régime, c'est une incarnation de l'État. C'est un dieu mortel, c'est le sens du terme Léviathan. C'est une sorte de d'hyper-seigneur qui a un avantage, il peut accomplir des miracles grâce au toucher des écrouelles. Il est sacré, il a l'onction de la Sainte Ampoule, ce que n'a jamais la reine, même si la reine est couronnée, elle n'est pas sacrée, attention. Et c'est en fait un individu en chair et en os qui est censé incarner quelque chose qui le dépasse et qui à la fois relève de la symbolique politique, juridique, militaire. Donc tout ça dans un seul individu. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux corps, il y a un corps vivant et autour il y a des facettes, il y a des profils, il y a des fonctions. Le corps de la reine, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça? Je dirais qu'il vient compléter le corps du roi. Ce que je dis est peut-être un peu facile, mais il faut pas oublier que les systèmes héréditaires, les systèmes monarchiques, sont tributaires de dynasties, de liens familiaux, de questions de succession, de légitimité. Et quand on aborde ces thématiques, on s'aperçoit que la filiation est quelque chose d'essentiel. Mais pour qu'il y ait filiation, il faut qu'il y ait union matrimoniale. Pour qu'il y ait union matrimoniale, il faut une princesse qui plaise, qui soit en bonne santé, qui soit féconde, qui puisse incarner non pas l'État, mais ce qui va compléter l'incarnation de l'État, en l'occurrence qui est le corps du roi, et qui est en fait cette sorte de double féminin, ce double qui est symbole de fécondité, de paix, de beauté, qui est le pendant du roi de guerre par l'intermédiaire de cette fonction de la reine de paix, la reine pacificatrice, qui est à la fois censée être une bonne épouse, une bonne mère, et peut-être ensuite une régente qui fera preuve d'autorité.
Alors, donc le titre de votre ouvrage, c'est « Le corps de la reine ». Vous allez aborder donc cette question sous un rapport symbolique, Vous allez l'étudier en fonction de ce qu'on dit de ce corps, sur la manière dont il est représenté. Comment est-ce que vous abordez cette question ?
Alors, je pense que, c'est ma façon de faire. Il faut essayer d'aborder les choses de façon globale et en même temps de façon, bien sûr, évolutive et toujours de façon critique. On arrive, et on peut, je crois, c'est ce que j'ai essayé de faire, ce que j'essaie de faire dans mes autres publications, arriver à combiner les trois. Alors, de façon globale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je pense qu'il ne faut laisser de côté aucune source pertinente pour comprendre le fonctionnement, la place, la logique de ce corps féminin particulier qui est le corps de la reine. Les représentations sont importantes, j'utilise beaucoup d'images. Les témoignages sont essentiels. La culture matérielle ne doit pas être exclue parce que savoir si les reines ont tant de robes, tant de miroirs, tant de cosmétiques, tant de dépenses de santé ou autres, ça fait partie aussi de tout ce qui va, je dirais, reconstituer ou en tout cas permettre de mieux comprendre l'environnement d'un individu. Et puis, il y a aussi toutes les problématiques juridiques ou politiques. À ce titre, les traités parfois les plus secs, les plus arides qui soient, peuvent s'avérer être des sources intéressantes parce qu'à l'intérieur, on va mieux comprendre, par exemple, le fonctionnement de la loi salique, les nécessités ou, disons, les impératifs autour du mariage et, par exemple, qu'est-ce qu'une femme doit effectivement à son époux. On parle souvent dans le langage courant de devoir conjugal. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour une reine, quand on sait que énormément de souveraines ont été répudiées, ou bien parce qu'elles étaient stériles, ou réputées comme telles, ou alors parce qu'on considérait qu'elles refusaient d'appliquer, ou en tout cas de respecter leur mission, à savoir le devoir conjugal. Certains textes qui semblent encore une fois arides, secs, abstraits, prouvent notamment au Moyen-Âge, je fais allusion au droit canon notamment, à certains traités juridiques, que ce devoir conjugal, eh bien, il était en fait mutuel. Et que dans le devoir conjugal, il y avait à la fois le devoir, entre guillemets, au bénéfice de l'homme, mais aussi un devoir au bénéfice de la femme, qui était tout simplement, en vertu du désir de maternité, le fait d'avoir le droit d'avoir un mari qui vous fasse un enfant. Et ça pouvait être une exigence, et dans le droit canon, il y a en réalité une manière de penser une forme d'égalité, j'ai bien dit d'égalité, on est au Moyen-Âge, ce sont des théologiens qui réfléchissent et qui disent, attention, le mariage est là pour faire des enfants, il est là, d'après saint Augustin aussi, pour avoir des relations sexuelles, on va dire, dans un cadre juridique et un cadre, entre guillemets, normal, contrairement d'ailleurs à une certaine idée reçue hein, sur ce point. Et ça signifie que les chairs vont se mélanger. Il y a le terme très fort en latin de commixio carnis, c'est-à-dire les chairs vont se mélanger. À partir du moment où il y a consommation, il y a un mélange des humeurs, il y a un mélange des chairs, et ça, on ne pourra plus ensuite le séparer, sauf cas exceptionnel. Mélange à part égale. On ne dit à aucun moment que les humeurs, entre guillemets, les fluides, la chair de l'homme s'impose à la chair de la femme. On pense au contraire les choses dans une parfaite égalité de statut qui précisément va limiter les répudiations injustes, les répudiations excessives. Quelqu'un qui a, je dirais, un minimum d'érudition dit oui, effectivement, on a le cas de Philippe Auguste, notamment au Moyen-Âge, plusieurs souverains qui ont voulu répudier leurs femmes. Ils l'ont fait ou quand ils ont essayé de le faire, l'Église s'est très souvent opposée à ces répudiations en vertu du principe qu'on n'avait pas le droit de casser un sacrement majeur qui est celui, par exemple, du mariage et qu'en vertu des théologiens, eh bien, l'engagement charnel était là aussi un engagement indissoluble. Même si les rois, avec tout leur sacralité, leur pouvoir institutionnel, etc., etc., voulaient se débarrasser de ces femmes qui ne leur servaient à rien. L'Église très souvent les a protégées.
Donc en fait, il y avait une égalité dans les fonctions entre les deux entre l'homme et la femme, oui. Mais une égalité qui était reconnue et revendiquée dans ces sociétés.
Alors, c'est une égalité, je dirais, en termes de relations de couple. On a des interrogations et des questionnements, en réalité, qui sont très modernes dans ces textes du Moyen-Âge, et qui ne sont absolument pas, comme ça a pu être caricaturé parfois, je dirais sans doute par de mauvais historiens ou des gens qui allaient un petit peu vite, l'Église n'a jamais justifié, comment dire, une sorte de domination masculine. Il est vrai par ailleurs que dans ces sociétés traditionnelles, on considère que le pouvoir et l'autorité, c'est du côté des hommes. Ça, c'est certain. Et en revanche, on a dans ces cas litigieux, dans ces problèmes de couple, des attitudes qui sont des attitudes très réservées, où on ne veut absolument pas, pour des seigneurs, pour des souverains, qu'ils soient sacrés ou non, on ne veut pas leur signer, j'allais dire, si vous passez l'expression, un chèque en blanc, c'est-à-dire leur donner une totale liberté de disposer précisément du corps de ces femmes. Parce que dans cette notion de commixio carnis et de dette également, hein, de dette charnelle et de mélange charnel, il y a cette idée que quelque chose d'indissoluble se crée et que cette chose indissoluble va naturellement se transformer en enfant. C'est comme si on voulait couper un enfant en deux en disant on va rendre la partie du père et la partie de la mère. Non. Là-dessus, on a des principes qui sont effectivement qui sont très très forts. En revanche, au niveau politique, là, les choses sont beaucoup plus tranchées. Beaucoup plus tranchées, mais toujours avec une forme d'ambiguïté. En France, notamment, on a eu un système qui, sans doute, a été le plus... Alors, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à employer le terme de misogyne, mais on s'est toujours méfié d'un pouvoir qui passerait aux femmes, et plus encore, d'un pouvoir qui se transmettrait de femme en femme, ce qui n'est pas exactement la même chose. Les juristes, les philosophes, d'autres savants, d'autres érudits disent l'homme, il a la force, il a le tempérament pour commander. Le pouvoir est une activité virile. La femme, elle a la finesse, la subtilité, l'esprit de protection, de pacifisme pour effectivement encadrer un groupe, j'entends par là le foyer, la famille, les enfants. Bon, mais dans les deux cas, ce n'est pas restrictif, sous-entendu que un roi peut avoir des qualités féminines, une femme peut avoir des qualités, et une reine en l'occurrence peut avoir des qualités masculines. Les choses ne sont pas très tranchées, ou aussi tranchées qu'on le pense, sur le plan symbolique. Sur le plan juridique, toutefois, on s'est attaqué depuis la guerre de Cent Ans à toute revendication d'une forme d'intériorisation de l'État dans le corps d'une femme. La reine complète le roi. Elle va gouverner, de fait, lors d'une régence, lorsque elle attend que son fils accède à la majorité et donc devienne roi, entre guillemets, à 100%. Et en réalité, et comme je le dis et je le répète, les femmes en France ont fait d'excellents rois. On a eu des reines qui ont été d'excellents rois. À l'occasion des régences, c'est vrai, mais des régences qui ont duré quand même des années et des années, et qui, à la rigueur, ont eu davantage de rayonnement, ont été marquées par davantage de rayonnement pour le royaume, que certains règnes, bon, peut-être qu'ils n'ont pas été, entre guillemets, aussi glorieux que cela. Mais, prenons le cas de Marie de Médicis, même si ça finit pas très très bien pour elle, elle s'exile. Prenons le cas d'Anne d'Autriche. Le cas le plus connu est évidemment celui de Catherine de Médicis, c'est-à-dire une femme dont le machiavélisme, dont l'intelligence, dont la subtilité, j'ai travaillé sur la correspondance notamment de Catherine de Médicis, on a un sens du politique, un sens de la tactique, la manière très subtile aussi de mettre des fois en avant des états de santé défaillants pour prendre du temps, pour prendre du recul, jouer la montre, comme on dit, essayer justement de manipuler son entourage, ou bien en donnant l'impression qu'elle est beaucoup plus malade que dans la réalité, ou à l'inverse, qu'elle va mieux et ce qui lui est arrivé n'était pas très très grave. Ce sont des exemples que je développe effectivement dans mon livre, et ce sont des exemples et des éléments qui relèvent du politique. Les reines ont toujours fait de la politique, les femmes ont toujours fait de la politique. Elles étaient peut-être pas majoritaires, mais ces reines avaient un pouvoir qui était effectivement énorme, parce que le politique, c'est pas simplement ce que prévoit le droit et le cadrage institutionnel de l'action des gouvernants, c'est aussi, au quotidien, l'interaction entre les gens, la manière d'établir des rapports de force et d'en profiter.
Alors, quelles sont les grandes caractéristiques de la féminité entre le XIIe siècle et la Révolution française ?
Alors, vous me demandez de résumer une centaine de pages en quelques mots. Ben, vous allez voir, je vais le faire. Alors, la féminité, elle est conçue, j'allais dire, de façon hiératique pour le début de la période qui m'intéresse, c'est-à-dire la période du XIIe siècle, donc Philippe Auguste, et puis le XIIIe avec Saint-Louis, etc., etc. Ces reines qui sont pas forcément très connues du grand public. Bon, on connaît mieux Saint-Louis que Marguerite de Provence. Bon, on connaît davantage, à la rigueur, Philippe Auguste, au moins à Paris, par ses réalisations architecturales, que Ingeborg de Danemark, ou Isabelle de Hainaut. Alors, c'est une beauté, je dirais, une féminité qui est effectivement hiératique. Le modèle, c'est la beauté, la sagesse, l'état d'esprit de la Vierge Marie. Dans les représentations, d'ailleurs, ces reines, que ce soit sur les sceaux ou sur les rares sculptures qui les représentent au XIIe et XIIIe siècle, elles sont extrêmement minces, elles ont une longue robe, assez légère, elles sont munies d'un visage assez long, dans les sceaux, elles sont toujours jeunes. Ah ben oui, elles ne vieillissent pas, effectivement, elles ne grossissent pas, leur silhouette, leur squelette reste toujours absolument rectiligne. C'est de la sculpture romane. Et puis après, ça devient, j'allais dire, de la sculpture gothique. Il faut attendre le début du XVe siècle, globalement, pour commencer à avoir des portraits relativement réalistes, des représentations relativement réalistes. Au niveau des textes et au niveau, je dirais, du contexte même culturel, c'est une féminité qui rime de toute façon, parce que la culture antique, elle est toujours là, quoi qu'on dise, même si on est dans un monde archi-chrétien, la culture antique, elle est toujours là. La féminité, elle est du côté de la protection avant tout. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la virilité, elle est du côté de la répression, mais on est dans cette complémentarité, dans cette manière de penser le vivant, de façon finalement binaire. Les anthropologues, je songe notamment à Françoise Héritier, dont l'œuvre est souvent citée, est-elle toujours lue, de façon approfondie quand on entend certains commentaires, en tout cas certaines interprétations ou relectures des œuvres et des travaux de Françoise Héritier, les sociétés traditionnelles ont toujours pensé la différence. Penser la différence, c'était penser la complémentarité, respecter la différence, effectivement, de chacun. La pensée de la différence, c'est dire il y a quelque chose et il y a quelque chose d'autre. Et à partir de là, on pense la différence, on pense le masculin, on pense le féminin. Si ensuite, j'en conviens, on utilise la différence pour créer une hiérarchie, c'est autre chose. Mais dans les sociétés traditionnelles, je dirais qu'il y a effectivement les deux. Il peut y avoir une hiérarchie, pour le meilleur et pour le pire, mais on est surtout dans une forme de complémentarité qui permet à la fois de séparer les rôles des uns et des autres, mais également de protéger la spécificité, j'allais dire, des uns et des autres, de protéger le monde masculin, de protéger le monde féminin, et de permettre de penser, en fait, à la tête du royaume, l'idée d'un couple qui va avoir des enfants et qui va effectivement perpétuer ce sang royal. Un sang royal, je le précise, qui est un sang métissé, car ces princesses sont des étrangères. Elles arrivent parfois sans connaître la langue, ni la culture, ni rien du tout du royaume dans lequel elles vont devoir incarner quelque chose de très important, où elles auront une mission fondamentale à exercer, mais effectivement, nos rois de France sont tous des métisses.
Est-ce que la reine, elle se devait d'être belle et de plaire sous l'Ancien Régime ?
Oui, car on considère que si la reine n'est pas séduisante, le roi va aller voir ailleurs. Et ça, effectivement, ça va donner lieu à des intrigues, à des rumeurs, à des cabales, à des situations catastrophiques. Il y a donc tout un processus de sélection des candidates. Certes, leur provenance est fixée par des impératifs diplomatiques, à savoir s'il est plus intéressant de se lier avec, je ne sais pas moi, le Danemark, le Saint-Empire, l'Espagne, Florence, etc. Ensuite, il y a vraiment des sources, des archives très précises qui montrent vraiment la focalisation, pour pas dire l'angoisse, autour de la question de la fécondité de cette princesse qui va devenir reine. Parce que on sait très bien que les répudiations, c'est très compliqué, le pape intervient, ça met la pagaille un petit peu partout, donc on essaie d'anticiper au maximum. Cette attention très forte par rapport à la santé, par rapport au potentiel de séduction, par rapport à ce que l'on peut imaginer ou savoir de la fécondité de la reine, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les sources, au moins, du Moyen-Âge jusqu'à Napoléon Bonaparte. On échange des portraits pour voir si le dauphin, donc le successeur présumé, trouve joli la prétendante, en tout cas la princesse qu'on lui a sélectionnée. Pour Marie Leszczynska, on envoie en mission secrète un chirurgien pour essayer d'en apprendre davantage sur sa santé, parce que on colporte des rumeurs sur laquelle elle aurait deux doigts qui sont soudés, elle aurait été épileptique, elle aurait plein de problèmes de santé, donc elle serait pas intéressante du tout. Vous avez un véritable casting, en fait, qui est établi. C'est la même chose quand Napoléon Bonaparte répudie Joséphine parce que il n'a toujours pas d'enfant et lui, il veut créer une dynastie. Et on va aller chercher, effectivement, une Autrichienne. Pensez donc qu'il y avait un lien de parenté avec Marie-Antoinette, c'est la fameuse Marie-Louise. Et Napoléon, on lui attribue en tout cas cette phrase. Je n'ai pas retrouvé la source exacte, mais elle est mentionnée par un historien très important de Napoléon au début du XXe siècle, qui est Frédéric Masson. Napoléon aurait dit « j'épouserai un ventre », parce que c'est la seule chose qui l'intéressait. Alors, bien entendu, pour revenir au départ et au début de votre question, la féminité ne se limite pas à un ventre. Et il est malheureux et triste que la raison d'État et que les implications et les stratégies politiques aient résumé ces femmes à des ventres. Beaucoup de rois, sans doute, les ont considérées comme telles. Au niveau de l'iconographie et de la vie de cour, les choses, heureusement, étaient plus subtiles.
Comment une reine de France fait face à la stérilité? Et comment, avec son mari le roi, il cherche en fait à pallier ce problème qui va être un problème dynastique par la suite?
Alors, problème dynastique, évidemment, et surtout, ce que l'on observe et ce que j'ai observé, c'est que, en réalité, ces stérilités, elles sont d'une manière générale fictive, ou pour le dire différemment, temporaire. En clair, ce ne sont pas des stérilités. Ce sont des fausses couches à répétition qui se déroulent, plus ou moins en secret. Là-dessus, les sources sont souvent rares et on peut, en essayant de reconstituer par rapport à des dates, par rapport à des informations, par rapport à des correspondances de diplomates étrangers, certaines circonstances. C'est vrai pour le XVIe siècle, c'est vrai pour Marie-Antoinette, où on a des fausses couches qui sont dissimulées. Y a-t-il eu jusqu'à des avortements? J'entends par là des avortements volontaires. Là aussi, très difficile à dire. Bien entendu, comme c'était interdit, réprouvé, réprimé, tout ce que vous voulez, il est très difficile d'avoir ce genre d'informations. Mais si on prend le cas de Catherine de Médicis, si on prend le cas d'Anne d'Autriche, alors Marie de Médicis, elle est beaucoup plus féconde, elle fait des enfants rapidement, Henri IV est content, mais on a quand même des reines qui ont du mal à donner, la vie immédiatement, ou pour le formuler différemment, à porter un enfant à terme. Et en plus, cet enfant à terme, on s'attend, puisqu'on est en France et que la loi salique les avantages, à ce que ce soit un petit garçon. Bon, donc un bébé mâle. Effectivement, on a des cas de répudiation, notamment Marguerite de Valois est le cas le plus célèbre. Marguerite de Valois, mariée de force et répudiée de force également, avec là aussi un contexte où, pour essayer de stabiliser une monarchie troublée et ô combien par les guerres de religion, il fallait là aussi créer l'événement. L'événement, c'était quoi? C'était il y a une naissance. Aujourd'hui encore, on surmédiatise les naissances à Buckingham Palace, en Angleterre. Kate Middleton, est-ce qu'elle attend encore un nouvel enfant, etc. On focalise dessous. On faisait exactement la même chose dans l'Ancien Régime. D'une part parce que les têtes couronnées ont toujours intéressé. Par ailleurs, parce que il en allait des équilibres, on va dire, géopolitiques, ou en tout cas des stratégies des uns et des autres, et surtout la capacité à un souverain d'avoir un successeur. C'est quelque chose qui a été vraiment traumatisant, par exemple, pour Napoléon Bonaparte. on a quand même, on connaît bien Napoléon, on connaît bien voilà ses relations avec Joséphine. Il avait l'air très amoureux de cette femme, mais il voulait absolument un enfant. Et voilà, hein, ses frères racontaient tout et n'importe quoi ou presque sur elle. J'ai relaté certains échanges d'une virulence, d'une dureté terrible hein, contre le physique, l'âge, etc., voire même le parfum de Joséphine. Les frères de Napoléon disaient, mais enfin, mais débarrasse-toi de cette vieille, elles sont pas bonnes, elle est pas jolie, mais qu'est-ce que tu fais avec? Enfin, il y a plein de princesses là qui te feraient plein de plein d'enfants. Donc on est toujours dans ce rapport de force. On est toujours dans ce rapport de force et le corps féminin sert d'alibi. Il sert d'alibi à des logiques qui sont des logiques diplomatiques, à des logiques politiques. Est-ce que c'est une arme? Ça dépend pour qui. Est-ce que ce corps c'est une arme pour effectivement la reine elle-même? Il est certain que dès qu'une reine a donné naissance à un dauphin, eh bien elle va bénéficier de son image de mère. Tant qu'elle n'est pas encore, je dirais, mère, elle est dans une position qui est encore délicate. Marie-Antoinette l'a suffisamment expérimentée, sa correspondance avec sa mère, la correspondance secrète du comte de Mercy avec donc l'impératrice Marie-Thérèse, toutes ces correspondances et tout ce que l'on sait va dans le même sens. Il y a vraiment une pression considérable qui s'exerce sur ces femmes qui doivent effectivement plaire des fois des maris, j'allais dire un peu falot ou un peu timide ou malade, on ne sait pas exactement. Hein. Il y a plein de possibilités, j'allais dire, et d'hypothèses que les archives contiennent. Mais ce qui est certain, c'est que du côté des femmes, là, la pression, elle était extrêmement forte. Peut-être qu'effectivement, lorsqu'il y avait des régences, bah, elles prenaient un petit peu leur revanche en disant, bah, on m'a bien mis la pression pendant des années pour avoir des enfants. Ben, j'ai eu ces enfants, mon mari est mort, ben maintenant c'est moi qui vais gouverner. Et comme j'ai l'autorité maternelle, cette autorité maternelle va me permettre de mettre en place une nouvelle forme de gouvernance. Et je crois que là, le terme de gouvernance, qui est ultra contemporain, on peut également l'employer pour des périodes comme le 16e ou 17e siècle, c'est-à-dire, c'est pas le gouvernement à 100% parce que moi-même je n'ai pas la souveraineté, je ne suis pas un homme, je suis la reine, je peux pas être roi. Mais en même temps, j'ai suffisamment de pouvoir et d'autorité sur mon fils, sur les rapports de force à la cour, pour que ben, ce soit quand même moi qui dirige le royaume de façon concrète.
Alors vous expliquez, et je trouve que le passage est plein d'humour, dans quelle mesure François Ier, qui essayait, qui se donnait en spectacle, alors qu'il devait épouser la sœur de Charles Quint, oui. et Henri... Henri VIII, pardon, qui justement avait senti que c'était qu'une comédie et qu'en fait finalement les époux ne s'appréciaient pas. Et en fait c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure sur la séduction et la beauté de la reine peuvent jouer à une échelle diplomatique et une échelle européenne.
Oui, à échelle diplomatique européenne. Bon, après le désastre français de Pavie, la captivité de François Ier, il est otage. Il repart en France, mais il donne ses enfants comme otage à Charles Quint. Alors, Charles Quint les traite très très bien. Hein. Là aussi, il faut lire les lettres de ces personnages, j'allais dire assez hors du commun, pour se rendre compte que quand on parle de prise d'otage ou autre, ce sont des gens qui se font la guerre, mais qui se respectent. Vraiment à un degré qu'on a du mal à imaginer ou qui emploient des tournures, voilà, hein, mon bon frère, voilà, bon, c'est comme s'ils étaient tous d'une seule et même famille. Et c'est pas faux, en réalité, c'est pas faux, parce que l'échange des princesses permet précisément d'éviter quelque chose, je le dis et j'essaie de le répéter, c'est la guerre totale. Il n'y a pas de guerre totale dans l'Ancien Régime. Il peut y avoir des guerres civiles terribles, mais il n'y a pas de guerre totale entre royaumes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils savent très bien que dans leur généalogie, ils ont du sang espagnol, du sang français, du sang allemand, du sang ceci, du sang cela. Ce sont des sangs mêlés, on peut employer le terme, enfin la formule. Ce sont des sangs mêlés, donc il n'y a pas de guerre totale. Donc, tout ça, c'est une seule et même famille. Alors, effectivement, bon, on s'échange, les cousins, les cousines. On dira, ben oui, c'est la consanguinité, ça donnait des maladies bizarres. Bon, attention, les généticiens ont montré que on a un petit peu forcé le trait, que c'était pas aussi simple que ça. Il y avait sans doute de grandes maladies, enfin, de nombreux cas de maladies congénitales, mais qui n'étaient pas forcément liées, comme on l'a cru dès le 19e siècle, en fait, à la consanguinité. Bon, alors, François Ier, Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, pour sortir et d'Espagne et repartir en France, il dit voilà, hein, je donne de l'argent, je donne mes enfants en otage et j'accepte d'épouser la sœur de mon ravisseur, du preneur d'otage, en l'occurrence Charles Quint. Bon, c'est la pauvre Éléonore de Habsbourg, qui est une reine qui a laissé très peu de traces en réalité dans la mémoire, j'allais dire, collective de l'histoire de France. Et ça a été, voilà, une des épouses de François Ier. Cette femme, elle arrive, je dirais, en France, dans des circonstances qui sont complètement improbables. Imaginez l'accueil glacial face à celle qui est la sœur du méchant empereur Charles Quint, qui a retenu en otage, etc., qui est en train de dominer toute l'Europe. Et en réalité, ce qui va être un levier important pour cette femme, c'est précisément son sentiment maternel, c'est-à-dire le fait de s'occuper des enfants de François Ier, qui finiront par revenir en France. Elle va s'occuper d'eux, on le voit dans les correspondances, de leur santé, de tout ce qui peut leur arriver, avec un sentiment maternel. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça n'a pas vraiment fonctionné, et même les premières effusions de François Ier en Espagne, lorsqu'on lui présente celle qui sera sa promise, alors il pleure, il lui fait des compliments, il se sépare, il pleure, elle aussi elle pleure pour rendre un petit peu l'appareil. Bon, tout ceci c'est du théâtre. On a des espions, des ambassadeurs anglais très bien renseignés qui ont dit mais ils n'ont aucune relation intime. Comment dire, passer le théâtre en Espagne de cette rencontre et des effusions sentimentales entre François Ier et sa promise, eh bien une fois en France, elle était complètement délaissée, pour ne pas dire complètement moquée. Et encore une fois, elle a laissé très peu de traces. On ne sait pas que la sœur de Charles Quint, ou on sait peu que la sœur de Charles Quint a été une reine de France qui a régné pendant des années.
Vous avez parlé au sujet de cette reine de France, du côté son côté maternel. Comment est-ce que la reine, elle met en scène cette maternité, et est-ce qu'elle est représentée, ou il faudra attendre le XVIe, le XVIIe ou le XVIIIe siècle?
Alors, pour le Moyen-Âge, on a effectivement l'image de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Il n'y a jamais de représentation d'une reine en présence de ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui va intervenir beaucoup plus tardivement. Une reine enceinte, un tableau rarissime de la famille des peintres les Beaubruns, représentant Anne d'Autriche, enceinte, je crois, de 6 mois, quelque chose comme ça, évidemment Louis XIV. Enfin, elle attend Louis XIV, hein, le futur Louis XIV. Et c'est une œuvre vraiment paradoxale. C'est une œuvre vraiment paradoxale, pourquoi? Parce que, bon, au départ, on se dit, tiens, elle a voulu se représenter enceinte, d'accord, mais il faut se poser la question de savoir quand le tableau a été réalisé. Le tableau n'a pas pu être réalisé pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer ce type de représentation si l'accouchement se passe mal et si effectivement l'enfant meurt ou si l'enfant est mal formé. On a des cas de malformation, hein. Alors, la littérature n'est pas très très abondante sur le sujet, mais c'était toujours une hantise, hein. Un enfant sort mal formé, qu'est-ce qu'on va penser ensuite? Ben voilà, hein. Pourquoi Dieu enverrait un enfant mal formé dans le ventre de la reine? Bon, donc on a effectivement cette image. Par contre, on a, et ça c'est beaucoup plus neuf précisément avec Anne d'Autriche, après son accouchement, beaucoup de représentations où on a des gestes très tendres d'une mère avec son bébé, d'une mère avec un tout petit enfant, voire avec un adolescent, et on pourrait presque reconstituer la chronologie de la croissance du petit Louis XIV, hein, petit Louis Dieudonné, voilà, année après année, en regardant et en observant ses peintures, où on voit vraiment une relation exclusive. Quand je dis relation exclusive, c'est vrai dans le sens où, bon, on voit plus une femme, certes de l'aristocratie, encore qu'elle n'est pas surchargée de diamants, elle n'a pas de couronne sur la tête, c'est une sorte d'aristocrate que l'on voit avec son bébé ou avec son petit garçon, ce qui donne une image justement assez intime, un petit peu, j'allais dire, de la vie privée de cette femme, qui a été obligée d'attendre un certain nombre d'années avant, non pas de tomber enceinte, hein, là aussi on a des fausses couches qui sont attestées par quantité d'archives, mais qui enfin, en septembre 1638, accouche d'un garçon, hein, qui sera le futur Louis XIV. Donc au niveau des représentations, on a ça. Ça continue avec notamment Marie-Antoinette, hein, et on a quantité de tableaux très célèbres qui la représentent avec ses enfants. Ce qui est aussi une mode, ce qui est aussi une mode picturale au XVIIIe siècle. On aime bien représenter, hein, Philippe Ariès l'a très bien montré en son temps, on aime bien représenter la vie de famille. Hein. Il y a un côté beaucoup plus familial, beaucoup plus, le père, la mère, les enfants, loin un petit peu des représentations, j'allais dire, un peu verticales, un peu froides, qu'on pouvait trouver encore au XVIe siècle, même si on a quand même un portrait de Catherine de Médicis en veuve, avec ses quatre enfants d'alors.
On connaît donc un essor de la représentation au XVe et au XVIe siècle, et du réalisme d'ailleurs dans l'histoire des arts. Quel a été l'impact de ce tournant en fait dans la représentation du corps féminin et notamment du corps de la reine?
Alors le règne de transition, à mon sens, et c'est valable aussi pour les rois, c'est Charles VI. Charles VI, le roi fou, Isabeau de Bavière. Bon. À partir de la fin du XIVe siècle, début XVe siècle, on a une multiplication de portraits avec des détails qui permettent de bien différencier les individus. On va dire que c'est du réalisme, en réalité on n'en sait rien, ce sont des détails, entre guillemets, naturels ou naturalistes. Bon, en clair, on n'est plus dans le hiératisme de style sculpture romane, voire sculpture gothique, on est dans quelque chose qui... Voilà, on va avoir une chevelure qui est pas parfaite, on va avoir un bouton, on va avoir des yeux qui, etc., etc. Donc, on arrive plus facilement à différencier les individus. La question est de savoir quelle est la fonction de ces images. C'est ça qui est difficile. La réception d'une part, et puis la fonction de ces images. Dans la mesure où, dans un monde qui est un monde, encore une fois, très chrétien, ou hyper chrétien si vous préférez, dans ce monde-là, eh bien, son portrait, c'est une idole. Qui aurait le toupet de se représenter telle la figure du Christ, la figure de la Vierge ou la figure des saints? Bon. Donc, en fait, ce droit à l'image, c'est-à-dire, je suis tellement important que je vais commander mon portrait. En fait, c'est quelque chose qui est en complète rupture avec l'idéal, notamment, du Moyen-Âge et qui pourrait marquer une sorte d'émergence ou d'apogée progressive de l'individualisme. Il y a un petit peu de ça, hein, il y a un petit peu de ça dans cette idée que je vais me représenter. C'est comme si en fait je figeais mon reflet dans le miroir et je veux avoir une image qui me ressemble. Mais oui, mais ça sert à quoi ça? Alors on a des livres d'heures par exemple qui représentent ces images figées. Est-ce que ça veut dire qu'avec le temps on réfléchira à sa jeunesse, à sa beauté perdue? Plus tard, qui sait? On a aussi le cas des gisants. Alors, on a des gisants, effectivement, qui sont réalistes et qui vont, à un moment donné, fixer, par exemple, la jeunesse d'une reine qui, même si elle meurt à 60 ans ou à 70 ans, elle conservera son corps de jeune femme. On a précisément l'exemple bien connu par les historiens de l'art et de la sculpture du gisant de Catherine de Médicis. Dans le gisant de Catherine de Médicis, c'est une jolie jeune femme, on va dire, de 25-30 ans. Quand le premier sculpteur italien lui a présenté la première ébauche, eh bien, c'était un transi, les côtes visibles, la peau sur les os, une tension, une douleur visible. Enfin, c'était une image horrible, mais comme l'étaient les gisants. Elle a dit non, moi, je suis une Italienne, je veux quelque chose qui ressemble à un Botticelli. Donc vous allez me faire une jolie poitrine et je veux mourir dans une beauté éternelle. Et là aussi, hein, il y a un rapport de force particulier. Hein, si vous regardez le gisant de son mari Henri II, ben vous ne verrez pas la trace de la terrible blessure qu'il a emportée, hein, cette blessure à l'œil à l'issue du tournoi si célèbre. Donc l'historien doit se poser des questions. Il doit se poser des questions. Les sources, on les a. Mais là où on ne sait pas forcément répondre, c'est pour dire... Mais quelle était la fonction, hein, de telle ou telle image? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne se contente plus d'un blason? Ben, le blason, c'est la dynastie. Ce qui est important, c'est la dynastie. Non, je vais avoir un portrait réaliste. Ah bon? Un portrait des enfants. Hein. Catherine de Médicis va faire réaliser beaucoup de portraits de ses enfants, et même dans son livre d'heures, de deux filles, dont une qui est mort-née, et une deuxième qui est morte quelques heures, quelques jours plus tard. Et c'est un accouchement qui a été absolument, absolument terrible. Elle a voulu quand même immortaliser ces deux petits êtres qui, pour une n'a même pas vécu et l'autre très peu, dans son livre d'heures. Peut-être pour méditer là aussi sur la brièveté de la vie.
Votre troisième partie s'intitule « Féminité en crise et pouvoir royal », donc entre la fin du XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Comment on sent, on voit, on constate cette féminité en crise à travers la perception du corps ?
Alors, féminité en crise, pourquoi ? Parce qu'en réalité, à la fin du XVIe siècle, on a failli, bien sûr, évidemment, refaire l'histoire, on ne peut pas, et ça n'a pas beaucoup de sens même de vouloir le refaire, mais à la fin du XVIe siècle, on a failli arriver à un système, je dirais, plus équilibré au niveau juridique et politique, permettant à une femme de monter sur le trône, c'est-à-dire d'être reine à 100%, intégralement, et d'incarner enfin l'État, d'avoir une souveraineté qui ne soit pas déléguée ou qui ne soit pas une régence, c'est-à-dire une sorte d'intermède, mais qui soit une souveraineté intégrale. Bon. Au XVIe siècle, et je me suis intéressé à ce terme et à son occurrence, mais également, c'est vrai, dire malheureusement à sa rareté, parce que il fallait chercher longtemps avant de le retrouver, le terme de gynécocratie. On a des auteurs comme Jean Bodin, le juriste très célèbre, hein, théoricien, la République au sens de la chose publique, le pouvoir public qui encadre un petit peu tout en société. Il s'est intéressé lui aussi à cette gynécocratie en disant, oh là là, il n'y a rien de pire. Attention, pas de gynécocratie, pas de pouvoir aux femmes. Les femmes n'ont pas le tempérament, elles n'ont pas le courage, elles n'ont pas cette puissance virile qui est la définition de l'autorité. D'autres juristes ont dit exactement comme lui, mais attention, d'autres auteurs, d'autres érudits, d'autres savants ont dit non, pas du tout. On peut très bien imaginer un système gynécocratique qui ne soit pas celui des Amazones, hein, les légendaires Amazones, on ressort d'ailleurs un petit peu la légende à ce moment-là, mais qui ressemble pourquoi pas au système anglais. Car au moment où en France on est là à chercher des successeurs à Henri III par exemple, eh bien, et il y a eu un projet d'ailleurs hein, pour faire monter une femme sur le trône à l'époque de Philippe II. Hein, Philippe II avait réuni un groupe de juristes espagnols, de théologiens, etc., pour essayer d'imposer précisément une femme sur le trône de France. Et puis ça ne s'est pas fait parce qu'on s'est dit attention, si c'est une espagnole qui monte sur le trône de France, peut-être que la France va disparaître et être englobé par la méchante Espagne. Il faut pas oublier qu'on était à ce moment-là, au moment des guerres de religion, dans une situation très tendue avec l'Espagne et vice-versa. Bon. Donc enfin, il y a ces réflexions autour d'un gouvernement gynécocratique. D'un côté, réflexe misogyne, bon. D'un autre côté, des réflexions quand même intéressantes et des nuances en disant mais il faudrait peut-être qu'on sorte de ces clichés, de ces a priori. Mais non, pour gouverner, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la finesse, il faut de l'intelligence, il faut de la culture, il faut un certain nombre de vertus. Mais les femmes peuvent avoir cette intelligence, cette culture, cette vertu. Oui, on dira, mais la plupart des sources datent des régences, et les hommes qui écrivaient ce genre de choses étaient peut-être pas complètement sincères, ils essayaient de charmer indirectement ou directement, ou de flatter, si vous préférez, la régente du moment. On a par exemple cette très belle formule en 1556, un auteur qualifie Catherine de Médicis de mère et nourrice de tout le royaume. Mère et nourrice de tout le royaume. Alors là, c'est, je dirais, l'équivalent ou le pendant du père de la patrie, hein, le pater patria des Romains. La mère de tout le royaume et la nourrice, donc la fonction maternelle, la fonction nourricière, la prospérité, l'abondance. Peut-être qu'on est passé à côté effectivement d'une redéfinition du pouvoir et même, je dirais, de la souveraineté, parce que au-delà des individus, il y a aussi toute l'armature conceptuelle autour de ce que on attend d'un souverain ou de la façon dont on peut gouverner un royaume. Il est certain que peut-être en défaveur, mais là aussi c'est un point de vue quand on regarde l'histoire anglaise, en défaveur des femmes, eh bien, on a préféré le modèle martial, c'est-à-dire il nous faut un roi de guerre. C'est-à-dire on préfère la force voire même l'injustice et la raison d'État, ça donnera ensuite l'absolutisme, pour rétablir l'ordre et assurer la stabilité du royaume. Peut-être qu'une femme, non, elle aura pas forcément, c'était le point de vue français. Et en réalité, jusqu'encore à la Révolution française, on considère que un pays gouverné par une femme, c'est un pays qui est voué à l'anarchie. On a des textes d'une dureté terrible, bien sûr contre Marie-Antoinette, mais contre les femmes en général, à l'époque de la Révolution française, qui n'a pas été féministe, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire. Beaucoup de critiques contre Marie-Antoinette, oui, mais c'est pas pour ça qu'on avait prévu une véritable égalité politique à l'égard des femmes. Olympe de Gouges et à la Malfini, Madame Roland à la Malfini aussi. Donc là aussi, il faut bien contextualiser toutes ces questions, et les sources et les archives montrent au contraire que la Révolution a été d'un certain point de vue une forme de contre-révolution par rapport à cette idée que peut-être on pourrait permettre aux femmes d'eux. Non, surtout pas. Hein. Et on a même réécrit à ce moment-là, sous la Révolution, une partie de l'histoire de l'Ancien Régime et bien sûr du règne de Louis XVI, en disant, mais les problèmes du règne de Louis XVI, c'est qu'on n'avait pas un pouvoir viril suffisamment fort. La reine avait trop de pouvoir. C'est elle qui a conduit le roi à être dans l'indécision. C'est elle qui a conduit à des dépenses, etc., etc. C'est l'Autrichienne, c'est Madame Veto qui aurait neutralisé, encore une fois, par sa féminité, l'essence virile et masculine du pouvoir. On est loin du féminisme, je crois.
J'aimerais qu'on continue un peu sur Marie-Antoinette. Je l'ai évoqué dans mon introduction, elle a subi énormément de critiques, et notamment sur, au sujet de ses toilettes, de ses bijoux, en fait, de tout ce qui mettait, entre guillemets, en valeur son corps. Pourquoi un déchaînement contre Marie-Antoinette qui passait à ce moment-là par justement cette critique de sa manière de se représenter?
Alors, c'est une question en réalité qui est complexe. Et sincèrement, je suis pas sûr d'avoir une réponse satisfaisante pour nos auditeurs, pour vous-même et pour moi. Bon, souvent, je pose la question de savoir, et je me défausse pas en disant cela, j'ai essayé de répondre, mais souvent je me pose la question de savoir pourquoi la Révolution française n'a pas éclaté à la fin du règne de Louis XV. Ah oui, parce qu'en réalité, on avait quand même beaucoup d'éléments qui auraient pu déclencher des émeutes, des révoltes, des insurrections, le comportement du roi, l'impopularité de la du Barry, la crise économique, etc., etc., des scandales, les parlementaires très très remontés, tentatives d'assassinat, une partie de la cour qui manifestement était inspirée par les idées des Lumières, donc voulait de la réforme. Bon, ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression que Marie-Antoinette, comme Louis XVI d'ailleurs, les deux, ont un petit peu, réglé l'addition, si vous me passez l'expression, de leurs prédécesseurs. J'ai un petit peu cette impression, et l'historiographie et les archives vont plutôt dans ce sens-là. Pourquoi un tel acharnement, effectivement, sur cette femme? C'est un acharnement, je dirais, un petit peu à la manière du paratonnerre, sans doute pour protéger le roi. Sans doute pour protéger le roi, on s'est dit, bon, on a eu Louis XV, c'était catastrophique en termes d'image. Il touche plus les malades des écrouelles, il fait plus ses Pâques, la confession, on n'en est même pas sûr. En tout cas, il y a des versions divergentes, on ne sait pas exactement s'il s'est vraiment confessé alors qu'il était très malade. Comment est-ce qu'il a attrapé sa dernière maladie? Apparemment en fréquentant des gens très très jeunes, je ne développe pas. Donc, quelque part, accabler Louis XVI aurait été vraiment d'une grande injustice par rapport à cette image noire, peut-être une légende en partie, peut-être pas, de Louis XV. Bon, comment on fait pour protéger le roi? Ben, la reine va servir de paratonnerre. Elle va servir de paratonnerre, et on va même réutiliser, c'est assez incroyable, je le montre dans le livre, on va réutiliser des arguments qu'on avait déjà utilisés contre Isabeau de Bavière. Elle s'occupe mal de ses enfants, elle a des amants, elle dépense de l'argent, elle passe son temps à faire des fêtes. À la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, vous avez des documents, je les cite, qui stigmatisent le comportement, la moralité, l'absence de vertu, elle s'accapare le pouvoir, c'est pour ça que ça ne va pas, les riches se nourrissent de l'argent des pauvres, c'est terrible. Isabeau de Bavière. Et vous retrouvez exactement le même argumentaire avec des images obscènes en complément, c'est vrai, mais vous retrouvez exactement le même argumentaire contre Marie-Antoinette. Cet argumentaire est ce déchaînement pornographique contre la reine. Il faut toujours considérer que quand on critique quelque chose, ça veut dire que, ou quand on produit une image ou un texte critique, ça veut dire que en négatif, on défend l'inverse. Bon, quand on critique la moralité de la reine en disant « c'est une catin, elle est lesbienne, elle dépense beaucoup d'argent, elle en a rien à faire des pauvres, etc. etc. » Ça veut dire qu'on rêve encore d'un idéal ancien qui aurait été perdu, mais qui est en fait hyper traditionnel et hyper conformiste. Pendant des décennies, on a cru que la littérature pornographique, les images pornographiques, ou obscènes plutôt, représentant les ébats de la reine réelle ou évidemment supposée, que tout ça c'était subversif et que ça annonçait la révolution, de grandes réformes, etc., etc. Là, on a fait du déterminisme, c'est-à-dire on est allé chercher avant 1789 tout ce qui pouvait expliquer ce qui s'était passé après 1789, en disant ben vous voyez, la reine elle a été décapitée, oui mais ça a commencé quand on a écrit des textes, des pamphlets, qu'on a imprimé des gravures, où déjà elle était désacralisée. Attention, on va un petit peu vite. On va un petit peu vite. Isabeau de Bavière, elle a été très critiquée. Il n'y a pas eu de révolution. Bon. Et puis concernant Marie-Antoinette, on a davantage ce que j'ai essayé d'analyser dans les pages que j'ai consacrées à Marie-Antoinette. On a davantage le passage, je dirais, à un corps public. C'est comme si chacun voulait prendre un morceau du corps de la reine, au moins par son image. C'est comme si la pornographie, à un moment donné, elle entraînait ce que j'appelle le corps sectionné. Le corps sectionné, section S-E-C-T, etc., mais aussi sectionné S-E-X. C'est-à-dire que par une forme d'érotisme ou de pornographie, souvent d'ailleurs de qualité médiocre, on va dire d'un point de vue littéraire, quand on compare notamment au XVIe siècle, on achetait une partie du corps de la reine. On en faisait une sorte de matériaux fractionnables, et on pouvait comme ça, avoir une partie voir une partie de l'intimité, même d'ailleurs du corps de la reine, parce qu'il y a des gravures qui la représentent nue dans des ébats, etc. Et même d'ailleurs essayer de certains auteurs le proposent ou en tout cas le promettent à leurs lecteurs. Vous allez faire l'amour avec la reine. Vous allez faire l'amour avec la reine en lisant mon texte, vous allez lire des choses et vous allez avoir l'impression que vous couchez avec la reine. C'est-à-dire que ce corps, il devient public. Il devient public, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte d'appropriation. Ce qui est vrai par ailleurs, c'est que là, cette logique, elle s'est prolongée au moment de la Révolution française. Marche des femmes sur Versailles, on veut lui fricasser le foie, on veut lui arracher les entrailles, etc., etc. On veut la démembrer, comme au moment de la Terreur, un révolutionnaire voulait démembrer Louis XVI et envoyer une partie à chaque département.
Quelques derniers mots sur Marianne, qui est devenue l'égérie de la Révolution française. Pourquoi avec Marianne, le pouvoir ne devient pas féminin?
Pourquoi est-ce qu'il ne devient pas féminin? C'est pas passé loin. Disons qu'au moins la République a un symbole féminin. Les lecteurs remarqueront et feront eux-mêmes la comparaison entre la représentation de Marie de Médicis en Bellone, elle a le sein droit dénudé, et une représentation de la République par le baron Gros, c'est une toile qui se trouve au château de Versailles, où vous avez une sorte de Marianne, je suis pas sûr que c'est Marianne, mais enfin, ça ressemble beaucoup, avec un niveau, un faisceau de lecteurs et des symboles républicains bien connus, et aussi le sein droit dénudé, représente la République, comme si on avait quand même besoin, même si une femme n'a pas eu encore la totalité de l'exercice du pouvoir ou n'a pas encore incarné la souveraineté, la nécessité d'avoir un référent féminin. Et je crois que ça, dans l'histoire de la République, c'est un fait qui doit montrer qu'il y a non seulement une continuité entre certaines références, certains symboles de la monarchie, mais la nécessité de penser la complémentarité, y compris au sommet de l'État.
Merci beaucoup Stanis Pérez de nous avoir proposé cette lecture de l'Ancien Régime à travers le corps de la reine. Bien entendu, chers auditeurs, je vous conseille vivement d'aller approfondir cette réflexion grâce donc à l'ouvrage Le corps de la reine paru donc cette année aux éditions Perrin. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.